Gaston Leroux, Le crime de Rouletabille, chapitre 1, réflexion et souvenir d'un ami. Avec quelle émotion nouvelle, à plus de 10 ans de distance, moi, Sinclair, je reprends une plume qui a tracé le sensationnel rapport du mystère de la Chambre jaune et les premiers hauts faits du jeune reporter de l'époque, pour faire connaître dans ses détails insoupçonnés cette affaire retentissante dite « Le crime de Rouletabille ». Sombre tragédie où roulent d'effroyables ténèbres et sur le seuil de laquelle apparaît le doux monstre à la tête de sphinx, l'éternel féminin. Pauvre Rouletabille, lui à qui aucun problème jusqu'alors n'avait résisté, lui dont l'intelligence avait sondé tous les abîmes ouverts devant la raison, je l'ai vu un instant frissonner, éperdu, devant deux yeux de femme comme devant le chaos. On a relaté d'autre part le drame bulgare au milieu duquel le jeune reporter était allé chercher celle qui devait devenir sa femme et qu'il avait vue pour la première fois dans la salle de garde de la Pitié, car Ivana était venue toute jeune à Paris pour étudier la médecine. Cette Ivana Vinitchkov, d'une étrange beauté, appartenait à l'une des plus illustres familles de Sofia, qui avait été mêlée de façon atroce au malheur tragique de Stambulov et de ses amis. Tous ces incidents sont connus. Tous les journaux ont reproduit le récit des scènes sanglantes qui, en marge du conflit des Balkans, avaient été comme le sinistre prologue d'une radieuse union consacré à la Madeleine au milieu de tout Paris. Après la Grande Guerre, Ivana s'était remise à ses travaux de médecine et de laboratoire. On peut dire qu'elle avait tout quitté pour se consacrer entièrement à l'Institut Roland-Boulanger. À mes yeux, c'était un désastre et la faute en avait été pour beaucoup à Rouletabille, qui, écœuré de la mauvaise foi avec laquelle tout ce qui était officiel essayer d'étouffer les efforts d'un homme que l'école et l'académie affectaient de traiter comme un charlatan, se laissa trop facilement convaincre par Ivana, qui avait épousé la querelle du célèbre praticien. Vous connaissez notre Rouletabille, il ne se donne pas à moitié. Ses articles mirent le feu aux poudres. Il affirmait audacieusement que la méthode de travail de Roland Boulanger triomphait déjà en Amérique et il faisait prévoir que, pour peu que la France se montrât une fois de plus ingrate envers l'un de ses enfants, celui-ci fuirait pour s'exiler comme tant d'autres, irait porter son génie à l'étranger. En réalité, Roland Boulanger a-t-il eu du génie? Nous le saurons peut-être prochainement. Je l'ai toujours cru un peu faiseur. Assurément, il ne savait point être simple. Il était trop bel homme et avait la parole trop fleurie. Son charme était certain, les femmes en raffolaient, et ses conférences auxquelles ne comprenaient rien étaient le rendez-vous des élégantes comme au temps de Caro. Avec cela, il était très mondain, ce qui ne l'empêchait pas de travailler 12 heures par jour. Son esprit d'invention se répandait dans tous les domaines. C'était là son crime. Avait-on assez ri de son nouveau fusil à percussion latérale et de son nouveau système d'engrenage pour moteur d'auto et de son nouveau procédé de champagnisation? Cependant, des sociétés s'étaient fermées qui exploitaient ses brevets et qui ne paraissaient point s'être ruinées. Après avoir fait rire, il avait fait rugir. C'était quand il avait eu la prétention sacrilège de revenir sur les travaux de Pasteur en ressuscitant la génération spontanée. Il affirmait que rien n'avait été définitivement prouvé à ce sujet, et ses très curieux travaux sur la sensibilité, l'anesthésie et la génération des métaux conduisaient, il faut bien l'avouer, à des hypothèses inconnues et jamais encore envisagées. Son dernier effort portait sur le bacille de la tuberculose, et il avait inauguré dans son institut une nouvelle sérum-thérapie qui avait été l'objet de tous les espoirs et de toutes les fureurs. La vérité était que les résultats avaient été contradictoires et de lui-même il avait suspendu les traitements, répondant aux hurleurs qu'avant la fin de l'année, il aurait tué le bacille de Koch. Ce n'était un secret pour personne que son nouveau système avait pour point de départ le singulier privilège qu'ont les poules quand on leur inocule la tuberculose humaine, de former des kystes où le microbe persiste fort longtemps sans se généraliser, de sorte que l'altération tuberculeuse reste locale. Depuis plus d'un an, les jardins de l'Institut Roland-Boulanger, derrière l'observatoire, étaient devenus un vaste poulailler. Je savais que Ivana y vivait en fermière le jour et en secrétaire du grand homme une partie de ses nuits. Rouletabille avait ce qui restait. Tant mieux pour lui s'il trouvait la vie rose. Moi, ça ne m'aurait pas plu, bien que je ne doute à ce point de l'amour d'Ivana pour son époux, mais je suis d'avis qu'il ne faut pas trop tenter la vertu. Il y a 15 jours que je n'avais vu ni l'un ni l'autre. Nous étions fin juillet, quand, en sortant du palais, où je pensais bien ne plus retourner qu'après vacation, je me heurtai à Rouletabille. « Oh, mon cher Sinclair, j'allais chez toi, nous t'emmenons à Deauville. »« À Deauville ? » m'écriai-je, « mais Ivana qui aime tant la vraie campagne. Oh, oh, je ne vois pas Ivana à Deauville, elle déteste les snobs. » « Oh, mon cher, elle s'est fait faire des robes. Je ne la reconnais plus. Ce sont les boulangers qui nous emmènent. Ils m'ont chargé de t'inviter. Et Ivana compte sur toi. »« C'est bien vrai, ce mensonge-là ? » interrogeai-je encore. Rouletabille quitta alors son air enjoué. « Mais c'est moi qui te prie de venir. Viens. » Quand je rentrai chez moi, je m'affalai devant mon bureau, et me prenant la tête dans les mains, je fermais les yeux. Ce n'était pas la figure énigmatique d'Ivana qui m'apparaissait maintenant dans la nuit de mes paupières closes, mais une charmante tête blonde aux yeux d'un bleu céleste, au sourire en fleurs, au front virginal. Cette pureté m'avait séduit, sans qu'elle s'en doutât, la chère enfant, par un beau matin de printemps, où il y avait du soleil nouveau sur les quais dans les boîtes des boutiquistes. Elle était accompagnée de sa bonne vieille maman, qui lui cherchait je ne sais quel livre de classe dont elle avait besoin pour passer ses examens. Cela avait 17 ans. Cela n'avait jamais quitté les jupes de sa mère. Cela habitait dans le quartier. Cela n'était point pauvre, mais honnête. Situation modeste, excellente famille, mœurs irréprochables, un héritage de vertu. Cela ignorait toutes les horreurs de la capitale. J'épousais. Au moins, je savais ce que je faisais, moi. J'avais pris mes renseignements. J'avais étudié ma belle petite oie blanche de près pendant des mois. Je n'étais pas allé chercher une fille indomptée dans les Balkans. Et tout de suite, ainsi que je l'avais prévu, je fus tranquillement heureux, comme je le désirais. J'eus grand soin, du reste, d'entourer mon bonheur de toutes les précautions raisonnables. Comme j'étais fort amoureux, je me rendais parfaitement compte qu'il y avait en moi l'étoffe d'un jaloux, d'autant que je n'étais plus de la première jeunesse. Aussi ne recevais-je chez moi, en dehors de Rouletabille, que de vieux camarades qui ne pouvaient pas me porter ombrage. « Eh bien, j'eus la preuve un beau jour, je n'ai rien à cacher, hélas, puisque mon infortune n'a été que trop publique. J'eus la preuve un beau jour que ces yeux candides, ce front de vierge, ces boucles d'enfant, cette bouche naïve, toute cette pureté me trompaient. Après cela, on s'étonnera que je ne croie plus à rien. » On s'étonnera que je termine tout par des points d'interrogation. Ah, Rouletabille, quand tu me pris pour avocat dans cette affaire terrible, tu savais combien mon cœur avait souffert de la trahison d'un être adoré, et que le tien ne trouverait nulle part un plus sensible écho à ta douleur dans ces moments où tu croyais tout perdu. Chapitre 2. Masques et visages. Ayant reçu une lettre de Madame Boulanger qui m'invitait à venir passer quelques jours au chaume où se trouvaient déjà Rouletabille et Ivana, je partis pour Deauville. Les chaumes étaient une des plus belles villas du pays, avec une certaine affectation de style rustique qui n'excluait point la magnificence. Les boulangers étaient très riches. Le chirurgien, encore pauvre, mais déjà célèbre par ses premiers travaux, avait épousé Madame Hugon, jeune veuve du vieux Monsieur Hugon, qui avait fait une grosse fortune dans les phosphates siciliens. Ce mariage avait permis au praticien de délaisser sa clinique pour se livrer presque exclusivement à ses travaux de laboratoire. Madame Boulanger approchait maintenant de la quarantaine, mais elle montrait encore une grande fraîcheur de visage, et elle n'était point sans une certaine coquetterie un peu sévère, et qui allait bien à son genre, si j'ose dire. Et quel était donc le genre de Madame Boulanger? Il consistait surtout dans une austère amabilité, qui n'était certes point dépourvue de charme pour ceux et pour celles que son mari introduisait à son foyer. Elle savait dépouiller la savante qu'elle était devenue à l'école de son mari, car cette femme, qui n'avait qu'une éducation purement littéraire, s'était mise à la médecine et à la chimie comme une écolière, avait forcé les portes du laboratoire où Roland s'enfermait et était devenue son premier préparateur. Les élèves du maître ne se gênaient point pour dire qu'elle avait sa grande part dans les derniers succès de l'Institut Boulanger, mais de tels propos l'horripilaient, et elle fermait impatiemment la bouche aux indiscrets, et même à son mari, quand on effleurait ce sujet. Elle n'avait d'autre joie que la gloire de Roland, d'autre plaisir que celui de lui être agréable. Elle l'entourait de soins presque maternels. Son égalité d'humeur, qui était parfaite en toutes circonstances, faisait du foyer des boulangers quelque chose de rare. Elle en avait tout le mérite, car ce diable d'homme était doué d'une activité qui se dépensait en tous sens. On me comprendra. Roland Boulanger, qui n'était guère plus âgé que sa femme, avait eu et continuait d'avoir les plus belles aventures du monde. Il ne perdait son temps en rien. Chacun savait cela, et Thérèse, c'était le nom de Madame Boulanger, n'ignorait point que son époux menait de pair le travail et le plaisir. Il n'y mettait point toujours de la discrétion. Elle était la première à en sourire, et si elle souffrait, cela ne se voyait guère. À une allusion un peu trop précise de ses amis qui tentaient de la plaindre, elle répondait « Oh, moi, il y a longtemps que je ne suis plus qu'un pur esprit. J'aime Roland pour son intelligence et pour son grand cœur d'honnête homme. Le reste n'a pas d'importance, c'est des bêtises. » De fait, elle n'était tracassée que de la santé de son mari qui se surmenait trop. L'année précédente, lors de la grande passion de Boulanger pour Théodora Luigi, elle avait été effrayée de l'état de dépérissement rapide dans lequel elle le voyait. Alors là, elle s'était révoltée. « Je veux bien que mon mari s'amuse, » avait-elle dit à Rouletabille, « mais je ne veux pas qu'elle me le tue. » Elle avait été instruite que Théodora était une grande fumeuse d'opium, et que son imagination de courtisane savait créer au plaisir des décors fameux mais redoutables. Elle se jeta aux pieds de son mari. « Ça, lui dit-elle, tu n'as pas le droit. Ta santé ne t'appartient pas. Elle appartient à la science, à tous ceux que tu peux sauver. Mon Roland, écoute-moi. Tu sais que je ne te dis jamais rien. Je suis avec toi comme une bonne maman quand son grand enfant fait des frasques. » Je détourne la tête, mais regarde ton pauvre visage, tu me fais pleurer. Elle avait été sublime, cette femme, c'était une sainte. Et comme Boulanger n'était ni un misérable ni un sot, il avait compris qu'elle avait raison, et il l'avait serrée sur son cœur. Il s'était laissé emmener quelques semaines dans le Midi. Quand Thérèse avait ramené son mari à Paris, Théodora Luigi était parti pour un long voyage avec le prince Henri d'Albanie. Roland était sauvé. J'arrivais à Deauville par le train de Midi. Rouletabille était à la gare. Il me donna de bonnes nouvelles de tous. Nous échangeâmes quelques propos sans importance et bientôt l'auto s'arrêtait devant la porte des Chaumes. Je fus étonné de voir que personne ne venait au-devant de nous. Rouletabille, en me conduisant à une chambre, me dit qu'on déjeunait très tard à Deauville et que le professeur travaillait jusqu'à 1 heure. Comment, ici aussi? Mais ta femme ne travaille pas. Non, non, le professeur Ivana, Madame Boulanger et... sont renfermés tous les trois avec leur grand rapport sur le dernier état de leurs travaux relatifs à la tuberculose des gallinacées. Oh, charmante villégiature, et toi? Eh bien, tu ne travailles pas? Oh non, moi je m'amuse. À quoi? À faire des pâtés de sable. On va donc à la mer, à Deauville? Oui, moi, les enfants et les nourrices. Là-dessus, il me quitta, car il avait quelqu'un à voir qu'il était sûr de rencontrer à la potinière à cette heure-ci où toute la clique du tout Paris s'y écrasait. Quelques instants plus tard, je descendis dans le jardin qui était vaste avec d'admirables corbeilles de fleurs et de beaux coins d'ombrage. Les domestiques mettaient le couvert sous les arbres au lointain. Plus près, j'aperçus soudain Madame Boulanger, qui, souriante, venait au-devant de moi. Je m'avançai vers elle en longeant le mur de la villa. Au-dessus de moi, une fenêtre était ouverte, et j'entendis distinctement ces mots que prononçait Ivana. « Je vous en prie, oh, je vous en prie, laissez ma main, oh maître, vous êtes insupportable !» Je n'oublierai jamais l'accent de ce « je vous en prie ». Certes, était douce la prière et nullement menaçante. J'étais un peu pâle quand j'abordais Madame Boulanger. Il me paraissait impossible qu'elle n'eût pas entendu. J'avais bien entendu, moi. Et Thérèse n'était guère alors plus éloignée que moi de la fenêtre. Mais sans doute me trompais-je, car sa figure ne changea point, et elle me souhaita la bienvenue avec un naturel parfait. Ivana et Boulanger ne tardèrent point du reste à se montrer. Il me sembla, dès l'abord, qu'ils affectaient une correction un peu exagérée, mais cette impression dura peu devant la bonne humeur charmante d'Ivana et l'entrain du professeur. Tous deux marquèrent un grand plaisir de me revoir. Il ne dissimulait point que ma présence serait surtout utile à Rouletabille, qui était un peu délaissé. C'est la faute de ce damné rapport et de ces damnées poules qui ne nous ont pas encore livré tous leurs secrets, mais dans quelques jours nous en aurons fini avec les paperasses, je l'espère. Et alors, quelle randonnée en auto! Oh, nous tournons le dos à la potinière et en route pour la Bretagne. Première étape, une omelette chez la mère Poulard. Il rayonnait, cet homme. Il y avait de la flamme dans ses yeux sombres, aux cavités inquiétantes, qui donnaient parfois à réfléchir. Certains prétendaient qu'il ne s'était attaqué avec tant d'ardeur au problème de la tuberculose que parce qu'il était atteint lui-même de la terrible maladie. Nous nous mîmes à table, le déjeuner fut délicieux. Rouletabille était revenu de la potinière avec les dernières histoires de la nuit. On avait vidé les salles de jeu qu'à 4 heures du matin et les plus enragés s'étaient vengés de l'administration qui les mettait à la porte en emportant les instruments du jazz band et en faisant un tapage d'enfer. C'est dans cet équipage qu'ils étaient arrivés chez Léontine qui avait dû se relever et leur ouvrir la porte de son bar et leur faire à souper. Et là, il s'était remis à jouer, un jeu terrible, au dé. Le gros Berwick avait forcé un petit reporter, Ramal de Dramatica, à jouer les 5 louis qu'il avait dans sa poche. Vers les 8 heures du matin, le petit Ramel gagnait 25 000 francs. Il en profitait immédiatement pour se commander une soupe à l'oignon. Je rapporte tous ces détails pour que l'on se rende tout de suite compte du ton et de l'air des gens. Dans le moment même que nous nous égayions tous ainsi, apparemment sans arrière-pensée, Roland Boulanger, qui donnait la réplique à Rouletabille, cherchait le pied d'Ivana sous la table. J'en avais la preuve. Que les passions impétueuses rendent les hommes enfants et menteurs. Je regardais ce masque enjoué qui, dans le moment même, était tourné sur nous et sur lequel j'apercevais, moi, le vrai visage dionysiaque de Roland. Cet homme commettait en ce moment une action abominable et je crois pouvoir dire qu'il ne s'en doutait pas. Plus j'y pense, et plus je crois qu'il faut chercher le trait essentiel de ce caractère dans la naïveté de son égoïsme extrême. Réellement, cette insouciance un peu sauvage, cette violence aristocratique des passions, cette activité de vainqueur souriant, cet individualisme farouche, c'est ce qui m'apparaissait en Roland Boulanger beaucoup plus que cette âme généreuse d'apôtre et de savant voué au salut de l'humanité qui paraissait éblouir tant de gogos et cette pauvre Thérèse en particulier. Nous aurons l'occasion de reparler d'Ivana. Et quoi, pensais-je, serais-je seul à m'apercevoir de ce qui se passe? Et faut-il qu'un esprit aussi délié que celui de Rouletabille ne voit rien de ses manœuvres? Mais s'il s'en est aperçu, mais quel est mon rôle ici et que suis-je venu y faire? Chapitre 3. Le baiser sur la terrasse. Nous étions là depuis quelques instants, rêvant chacun de notre côté, lorsque j'aperçus distinctement dans l'une des allées qui conduisent à la plage, deux silhouettes qui venaient de sortir de l'ombre, traversaient un petit espace de clarté et rentraient dans l'obscurité. J'avais reconnu tout de suite dans les deux promeneurs solitaires Roland Boulanger et Ivana. Roland tenait la main d'Ivana sur ses lèvres et y prolongeait un baiser que la brusque lumière avait surpris. Il y avait eu à ce moment un geste de retrait d'Ivana, mais Roland avait maintenu sa position et il s'était enfoncé dans l'ombre avec sa captive. De loin, nous dominions la scène qui avait duré quelques secondes. Nous-mêmes étions dans l'ombre et d'en bas, on ne pouvait nous voir. Du reste, les deux personnages qui me préoccupaient ne semblaient guère penser à nous. Ils nous avaient complètement oubliés. Et maintenant, je dois vous dire que cette rapide vision m'avait complètement bouleversé, non pour moi, assurément, mais pour les deux êtres qui étaient assis à mes côtés. Il me paraissait impossible qu'ils n'eussent point vu ce que j'avais si bien vu, moi. Cependant, Rouletabille n'avait point bougé. Quant à Madame Boulanger, elle se leva en disant « Vous ne trouvez pas qu'il fait un peu frais, s'il rentrait ?» Nous nous levâmes à notre tour et la suivîmes jusque dans la salle de la boule où elle s'amusa à jouer sur les numéros et où elle gagna 20 francs avec des démonstrations de joie enfantine. Comme nous quittions la boule en nous retournant, nous nous trouvâmes nez à nez avec Roland et Ivana, qui depuis un instant regardaient jouer. « Tiens, fit Madame Boulanger, vous voilà. Où étiez-vous donc ?»« Dans la lune, répondit le professeur. Si vous saviez ce qu'il fait beau dehors. »« S'il rentrait à pied, proposa Thérèse. » Nous reprîmes le chemin de la villa. Roland et Ivana étaient devant nous à une certaine distance. Nous marchions tous en silence. Chapitre 4. Confidence. J'étais décidé à parler à Rouletabille. Un instant, j'avais pensé à précipiter mon départ par le jeu de quelques télégrammes me rappelant de Paris et à laisser derrière moi des choses qui ne me regardaient pas. Et puis, j'avais réfléchi que Rouletabille était un ami et que c'était agir en égoïste que de ne point lui ouvrir les yeux s'il les avait fermés. Depuis ma propre aventure, rien ne m'étonne plus de l'aveuglement des hommes. Il n'est point de cire plus chaude qui, en se refroidissant, devienne plus solide que le baiser d'une femme sur deux paupières. Et voilà de fameux scellés. La dame peut se promener à l'aise dans la lumière, l'autre n'y voit plus goutte. On a beau s'appeler Rouletabille, on a beau s'appuyer en marchant sur le bon bout de la raison, on trébuche comme les autres dans le même fossé, au fond duquel vous trouvez votre honneur en miettes et votre foyer en cendres. Le lendemain matin, comme j'étais à ma fenêtre en train de me faire la barbe, je vis sortir de la villa le professeur et Ivana à cheval. Ils étaient montés sur de belles bêtes impatientes, et les cavaliers ne paraissaient point non plus dénués d'une certaine ardeur animale qui me les montrait déjà grisés de l'air un peu pointu du matin et de la course qu'ils allaient fournir. Ivana montait en homme et pressait de ses cuisses nerveuses une jument de mi-sang que le garçon d'écurie avait peine à retenir. Roland avait les pommettes roses et je lui trouvais un sourire un peu féroce lorsque, tourné vers la villa, il fit un signe d'adieu avant de partir. Je crus que ce signe s'adressait à Madame Boulanger, mais en me penchant, j'aperçus à la fenêtre de sa chambre Rouletabille qui me demanda comment j'avais passé la nuit. On entendait le trot des chevaux qui s'éloignaient rapidement. « Eh bien, et toi, tu ne fais pas de cheval ?» demandai-je. « Ma foi non, ça me dit rien dans ce pays. Il y a trop d'automobiles sur les routes. »« Oh, à cette heure-ci, puis je vais te dire, je les ai accompagnés une fois, que ce soit à cheval, que ce soit à pied. Ils ne parlent dans leur promenade que de leur poule et de la tuberculose. Oh, j'aime autant rester ici. » La journée se passa sans incident. Je remarquais de plus en plus que nous existions de moins en moins pour le professeur et Ivana. Ils ne s'occupaient que d'eux. Je trouvais qu'en ce qui nous concernait, c'était assez mélancolique et le lendemain, je dis à Rouletabille « Allons déjeuner ensemble au Havre. »« Entendu, oui, je vais prévenir ici, » fit-il. « À quoi bon ? » répliquai-je. « On ne s'apercevra même pas de notre absence. » Il me regarda en souriant et me donnant une petite tape sur l'épaule. « Allons, allez, je vois que tu vas me parler. »« Oui, peut-être. » Une heure après, nous prenions le bateau à Trouville et au Havre, je l'emmenais déjeuner chez Frascati. Pendant la courte traversée, Rouletabille m'avait parlé, avec beaucoup de liberté d'esprit, de ses projets pour l'hiver, d'un grand voyage de reportage qu'il voulait faire en Syrie et en Mésopotamie. « Et Ivana ?» demandai-je. « Oh, fou, elle ne me laissera pas partir seule. En es-tu sûr ?»« Mais que veux-tu dire ?»« Dame, oh, je sais pas moi, ses travaux avec Roland Boulanger. »« Oh non, je crois qu'à cette époque, elle pourra prendre un congé. »« Eh bien, tant mieux, » appuyai-je. Il ne releva point ce « tant mieux ». Je crois même qu'il ne l'entendit point. Il me montrait les prodigieuses cheminées d'un transatlantique qui dépassait toutes les constructions du port dans lequel nous faisions alors notre entrée, et il m'entretenait déjà du plaisir qu'il prenait au long voyage sur mer, de l'admirable repos qu'il procurait. Il regrettait seulement l'installation du sans-fil qui donnait à chaque instant des nouvelles d'un monde dont on était autrefois si parfaitement coupé. « Hé, hé, fis-je, je ne te croyais pas si ami de la retraite, deviendrais-tu misanthrope ?»« Je n'ai aucune raison de le redire, » me répondit-il nettement, et en levant sur moi un regard qui me gêna. Si bien qu'à Frascati, je ne savais, moi, comment engager la conversation à laquelle j'étais si bien résolu. Ce fut lui qui me tira d'affaire, en me jetant tout à coup dans le moment que je le croyais entièrement occupé par le dépècement d'une pâte de homard, Eh bien, voyons, dis-moi ce qui te tracasse. Tu ne le devines pas, fis-je. Parle toujours, nous verrons bien après. Je trouve que Roland Boulanger fait bien l'enfant gâté. Il l'a toujours été, c'est pas nouveau. Oui, qu'il ait été gâté par sa femme et même par d'autres, cela me comportant à différents piquages, mais. Allons, interrompit Rouletabille, toujours en se battant avec son crustacé. Je vois ce qui te chagrine, tu trouves qu'il prend bien de liberté avec Ivana. Je fis oui de la tête. Il continua. Tu trouves même qu'Ivana lui laisse bien facilement prendre. Je ne répondis pas, mais mon silence était éloquent. Sur ces entrefaites, un intrus vint serrer la main du reporter. On parla de choses et d'autres, et notre conversation ne reprit qu'au dessert. Tu penses bien que j'ai pas attendu ton arrivée ici, fit-il, pour m'apercevoir du jeu qui s'y joue. Un jeu, relevai-je, il est bien dangereux. Non, répliqua-t-il péremptoire. Avec Ivana, je ne crains rien. Tu as tort. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu as tort. En principe, tu as raison d'avoir la plus grande confiance en ta femme, qui est la plus honnête des femmes, mais en pratique, quand la plus honnête des femmes se prête à ce jeu-là, même en toute innocence, eh bien, je te dis que son mari peut avoir tout à redouter. Rouletabille fronça le sourcil, resta silencieux quelques secondes, puis laissa tomber ces mots. Mon bon Sinclair, oh, tu es excusable de parler ainsi. Je rougis car il venait de toucher une plaie vive. Il s'aperçut qu'il m'avait fait de la peine et m'en demanda pardon sur-le-champ. Hélas, fit-il en secouant douloureusement la tête, si nous sommes de vrais amis, je crois que nous n'hésiterons pas à nous faire de la peine l'un et l'autre dans cette affaire. Dans cette affaire, voilà un bien gros mot. Pour quelques galanteries mondaines auxquelles personne jusqu'à ton arrivée ici n'a attaché d'importance. Si, m'écriai-je, il y a quelqu'un qui a attaché de l'importance à ces galanteries-là. Et qui? Mais toi, mon cher, toi qui m'as fait venir ici, toi qui as été le premier à mettre la conversation sur ce sujet, parce que, oui, parce que tu trouvais que je n'y arrivais pas assez vite. Eh bien, c'est exact, avoua Rouletabille, tu as raison. Je t'ai fait venir à cause de ça. J'ai voulu que tu voies, alors ça crève les yeux, hein. Mon pauvre ami, Rouletabille pâlit. Ah, cette fois, dit-il, tu vas trop loin. Je ne suis pas encore ton pauvre ami et j'espère bien ne jamais le devenir. Tu vas savoir ce qui se passe, car il ne se passe rien que je ne le sache. Je suis heureux de t'entendre parler ainsi. Rouletabille a toujours su tout avant tout le monde. Tu m'étonnes donc pas. Cependant, tu m'excuseras de te demander si tu sais qu'avant le déjeuner, dans le bureau, Roland Boulanger s'est saisi de la main d'Ivana et l'a si impatiemment pressée que ta femme a dû le supplier de cesser ses déclarations d'amitié. Oui, je sais cela. Et sais-tu que pendant le déjeuner, la botte de Roland est allée chercher sous la table le soulier d'Ivana? Oh, je ne l'ignore pas. Et que le soir, dans les jardins, devant la terrasse du casino, Ivana a abandonné à Roland cette main qu'elle lui avait ôtée le matin et qu'il l'a couverte de baisers. Les misérables! S'écria Rouletabille en éclatant de rire. Je le regardais d'un ahurissement le plus parfait. Tu trouves ça risible? Balbutiai-je. Mon Dieu, oui, tu ne penses pas que je vais pleurer pour des enfantillages pareils. Si tu connaissais Roland Boulanger, tu saurais qu'il ne peut pas avoir une femme à côté de lui sans se livrer à quelques manifestations plus ou moins extravagantes. Mais cela n'a de conséquences que pour celles qui le veulent bien. Ah, tout de même, avoue que tu n'es pas tranquille, car si tu sais tout cela, c'est que tu ne cesses de surveiller ta femme. Je suis tout à fait tranquille et je ne surveille pas ma femme. Si je sais tout cela, c'est que c'est elle qui me renseigne. Ha, te voilà bien attrapé, bon Saint-Clair. Ah, oh, là, je n'ai plus rien à dire. Eh bien, moi, je vais commencer, déclara-t-il en se levant. Allons faire un tour sur la digue. Il mit son bras sous le mien et j'eus bientôt sa confidence. Tu as dû remarquer que Madame Boulanger était au moins aussi calme que moi. Oh, elle, la pauvre sainte femme, elle en a tant vu. Eh bien, sache que Thérèse, Ivana et moi, nous avons formé un complot, celui d'arracher Roland à une mauvaise influence. Tu as entendu parler de Teodora Luigi? Certes, oui, je suis au courant. Le monde entier, du reste, a été au courant, car il y a de cela de bon rang avec Roland Boulanger, c'est qu'on est toujours au courant de tout. Il y a des femmes qui ne savent pas cacher leur bonne fortune, me répondit-il. Il y en a même qui se vantent de celles qu'elles n'ont pas eues, mais je ne pense pas que Roland. Bon, il est compromettant, mais passons. Alors, vous avez formé un complot. C'est toi qui as eu l'idée de ce complot? Non. Alors comment l'as-tu appris? Tu ferais un bon juge d'instruction, Sinclair. Je ne vais pas jouer au plus fin avec toi. Non, je t'en prie, c'est grave. Dis-moi bien tout, tout. Il fit quelques pas et se décida. Il m'avoua qu'à Paris, il avait été préoccupé par les façons désinvoltes du professeur et par la patience un peu coquette d'Ivana. Il avait néanmoins une grande, très grande expérience de l'honnêteté de sa femme pour qu'il pût mettre celle-ci en doute. La terrible aventure qui avait précédé leurs étranges noces avait été pour lui d'un enseignement qu'il ne pouvait oublier. En ces semaines tragiques, il avait pu croire, et il avait cru, qu'Ivana avait trahi la foi jurée au profit de leur plus cruel ennemi. Tout semblait le démontrer, les actes les plus éclatants d'Ivana comme les plus cachés l'attestaient. Elle trahissait Rouletabille. Eh bien non, elle ne lui avait jamais été aussi fidèle. Elle n'avait jamais autant travaillé pour leur amour. Et s'il ne l'avait point définitivement condamné, ça avait été par le miracle toujours renouvelé de la raison de Rouletabille, de son bon bout de la raison, qui lui avait fait voir la lumière là où les autres ne touchaient que des ténèbres et du sang. Tu comprends, me dit-il, que lorsque l'on a passé par là, on ne se laisse pas aller à son premier mouvement sur quelque déplaisante apparence. Je m'expliquais franchement avec Isaona. Elle ne me répondit point tout d'abord. Je vis que mes questions, en faisant croire à mes soupçons, l'avaient désagréablement surprise. Elle me demanda quelques heures avant de me répondre. Moi, je connaissais le caractère entier d'Ivana. Je regrettais presque d'avoir parlé. Notre précédente aventure et son innocence d'autrefois eussent dû, semble-t-il, lui épargner une telle conversation entre nous. Bref, je m'attendais à quelque éclat, et je puis te l'avouer, je n'emmenais pas large en rentrant le soir chez moi. Ainsi, je fus bien soulagé de lui voir tout de suite son bon sourire. Elle me prit la main et me conduisit devant Madame Roland Boulanger, qui m'attendait dans le salon. Ma bonne Thérèse, lui dit-elle, je vous l'amène, il est jaloux, sauvez-moi. C'est alors, continua Rouletabille, que j'appris le complot. Madame Boulanger s'était aperçue bien avant moi des amabilités de son mari pour Ivana, avant même qu'Ivana s'en fût ouverte elle-même à Madame Boulanger. Ma femme, en effet, avait laissé entendre à son ami qu'elle allait être dans la nécessité de résilier ses fonctions auprès du maître. Mais alors, Madame Boulanger avait fondu en larmes. Mais si vous partez, il est perdu, avait-elle répliqué à Ivana. Théodora Luigi est revenu. Il m'avait juré de ne plus la revoir, et il l'a revue. S'il n'est point retourné auprès d'elle, c'est qu'il vous aime et ne le désespérez pas. Alors, tu comprends, Sinclair? Tu comprends maintenant le jeu terrible, ne le désespérez pas? Et m'écriai-je, oh, je comprends que Madame Boulanger est en train de vous sacrifier tous les deux à son mari. À la santé de son mari, à la gloire de son mari. Mais que ne ferait-elle pas pour son mari? Elle s'est ouvert le cœur pour lui. Elle s'est mise sous tes pieds. Elle y mettra le monde, et ce n'est point le bonheur d'un bon petit ménage comme le vôtre qui l'arrêtera dans son holocauste. Oh, mon cher Sinclair, je voudrais tout de même bien que tu ne me prisses point pour un imbécile. Si cette petite histoire était destinée à durer, je te prie de croire que je ne me serais laissé attendrir ni par les larmes de Madame Boulanger, ni par les raisonnements altruistes d'Ivana, qui ne voit dans cette aventure qu'un merveilleux cerveau à sauver et peut-être l'aboutissement heureux et prochain d'illustres travaux sur le sérum de la tuberculose. Ah bien, interrompis-je, tu me l'abats, Ibn. Alors tu vas attendre pour reprendre ta femme que ce monsieur ait découvert le moyen de guérir la tuberculose. Idiot, éclata-t-il en me bourrant d'un solide coup de poing dans les côtes. Nous attendrons simplement que Théodora Luigi soit reparti, ce qui arrivera avant longtemps. Elle ne quitte plus Henri II d'Albanie. Henri II est pour 3 semaines en France. Dans 4 jours, il entre dans ses états. Et pour longtemps, paraît-il. Nous sommes débarrassés de la poison. Ivana et moi, nous faisons notre voyage en Syrie. Tu vois qu'au fond, conclut-il en s'efforçant de sourire, tout cela n'est pas très grave. Si tu connaissais mieux Ivana, tu dirais même que ça ne l'est pas du tout. Elle a la tête solide, tu sais. Pour te tranquilliser tout à fait, je te rapporterai la dernière conversation que nous eûmes à ce sujet. Elle se terminait ainsi. C'est Ivana qui parle. Le jour où tu auras le moindre soupçon, mon petit zo, fais-moi un signe et nous partons tout de suite. Et Roland Boulanger ne me reverra jamais. N'attends donc pas, répliquai-je à Rouletabille, n'attends donc pas d'avoir le moindre soupçon et fais-lui signe tout de suite. Oui, mais elle sera sûre alors que le soupçon je l'ai eu et cela, elle ne me le pardonnera pas, jamais. Oh, les femmes, ne puis-je m'empêcher de m'écrier avec une certaine admiration. Qu'est-ce que nous sommes auprès des femmes? En somme, résumons-nous. Si tu m'as fait venir ici, c'est moins pour que je te tranquillise que dans le dessein que tu avais de me tranquilliser. Ne raille pas, supplia Rouletabille d'une voix redevenue soudain très grave. Il m'avait repris le bras et me le serrait avec une tendresse de frère. Je t'ai fait venir parce que j'ai voulu que tu sois au courant, et puis parce que j'avais besoin d'avoir près de moi un ami. Non, ne raille pas, car au fond, vois-tu, je suis triste. Je suis triste sans savoir pourquoi, car enfin, je ne doute pas d'Ivana. Dans cette affaire, je me suis fait son complice et celui de Madame Boulanger. Et je devrais en rire. Eh bien, je ne ris pas. Ivana, elle, rit. Et c'est peut-être parce qu'elle rit, vois-tu, que je suis triste. Elle rit avec Boulanger. Elle sourit même à Boulanger, ce qui est pire. Je ne me serais jamais imaginé qu'un homme pût, je ne dis pas souffrir. En tout cas, je ne me l'avoue pas encore, mais être ainsi désemparé devant le sourire de la femme qu'il aime quand ce sourire s'adresse à un autre homme. Alors, je ne sais plus, j'ai le cerveau en miettes, je ne puis plus raisonner. Je te parlais tout à l'heure de la terrible aventure de nos fiançailles, dont je ne me suis tiré que par le raisonnement. Eh bien, je crois que cela ne m'a pas été possible, ne m'a été possible que parce que je me suis trouvé aux prises avec des faits brutaux, qu'il m'a été loisible de tourner et de retourner sur toutes leurs faces. Mais si j'avais vu Ivana sourire à Gavlov comme je l'ai vu sourire à Roland Boulanger, je ne sais pas, non, non, je ne sais pas si j'aurais pu mettre bout à bout deux idées. Alors tu en es là et vous restez, m'écriai-je. Mais oui, car je ne veux pas perdre Ivana. Je dompte une jalousie stupide, indigne d'elle et indigne de moi. Mais si tu savais comme elle m'aime, tous les sentiments qui m'agitent et dont je te fais part, je les trouve ridicules, odieux, lorsque, sa journée de comédie terminée, elle me presse sur son cœur. Bien, bien, fis-je, et je l'embrassai. Au fond, il ne m'avait fait venir que pour cela, avoir mon affection près de lui. Il n'y avait plus rien à lui dire. Quand nous rentrâmes au chaume, nous trouvâmes Madame Boulanger qui nous guettait. La pauvre femme était affolée. Théodora Luigi est ici, nous dit-elle.